France Culture.
Et tout de suite, on fait le point. C'est le point sur l'info, pardon. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël se passe très bien. Déclaration satisfaite ce matin du président américain Donald Trump. Sauf qu'on ne connaît pas véritablement les termes exacts de cette trêve. Par ailleurs, des doutes persistent sur l'étendue réelle des dégâts infligés au programme nucléaire de Téhéran. On se rendra à Jérusalem dès le début de ce journal. Et puis avec notre invité aujourd'hui, le géopolitologue Dominique Moisy, on s'interrogera sur la place aujourd'hui du multilatéralisme. L'actualité en France, c'est tout d'abord le gouvernement attaqué directement en justice aujourd'hui pour manque d'adaptation au changement climatique. Et puis après l'échec du conclave sur les retraites, la gauche a l'intention de déposer une motion de censure qui devrait être débattue en début de semaine prochaine, sauf qu'elle ne saurait être adoptée sans les voix du RN, lequel a déjà annoncé qu'il ne voterait pas la censure. Au bruit assourdissant des bombes a donc succédé, comme souvent au Moyen-Orient, le silence des questions restées sans réponse après qu'Israël et l'Iran ont cessé hier de s'invectiver toute la journée pour accuser l'autre d'avoir violé le cessez-le-feu décidé la veille par le président américain. Les hostilités ont, semble-t-il, pris fin depuis ce matin. Une fragile trêve est en vigueur. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu salue une victoire historique contre Téhéran et son programme nucléaire, et ce, même si un document classé confidentiel du renseignement américain semble établir en l'occurrence que les frappes américaines sur l'Iran n'ont fait que retarder son programme de seulement quelques mois sans le détruire complètement. De son côté, le régime de la République islamique crie lui aussi victoire, tout en réaffirmant ses droits légitimes à poursuivre son programme atomique à usage civil, sans compter qu'au regard du projet de démocratisation vendu par les faucons de Washington et de Tel Aviv, la capitulation inconditionnelle des mollahs plutôt que leur destruction programmée constitue là encore une victoire pour le régime de Téhéran et plus que tout une défaite donc pour le peuple iranien désormais partagé entre la peur et la résignation. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. Du côté israélien, Thibault, on ne parle pas d'ailleurs ce matin de destruction totale du programme nucléaire iranien.
Oui, ralenti mais pas détruit, discours ce matin du porte-parole de l'armée israélienne Effie Defrin. Il s'est exprimé devant la presse.
Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons considérablement endommagé le programme nucléaire iranien et ça ne date pas de l'opération des 12 derniers jours. Nous avons nos propres sources de renseignements. Je peux aussi citer le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, qui déclare qu'avant la guerre, l'Iran était capable de se doter de l'arme nucléaire, mais que désormais ce n'est plus le cas.
Effie Defrin assure que l'armée a rempli tous ses objectifs, mission accomplie, dit-il. Et pourtant, beaucoup de questions restent en suspens, et notamment au sujet de ce programme nucléaire iranien. Où sont les 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, combustible qui pourrait servir, une fois transformé, à alimenter une arme nucléaire? Et puis, que va faire Israël si ses drones ou ses espions repèrent une reprise de l'activité d'enrichissement? C'est une trêve sans accord, les armes se sont tues, mais rien n'est réglé.
Alors, s'agissant des termes de la trêve, justement, il demeure encore assez flou en réalité. Et puis, on a quand même ce sentiment, Thibault, d'être revenu peu ou prou à la case départ.
Eh bien, quid du programme nucléaire iranien dont je vous parlais? Que vont faire les Houthis du Yémen? Depuis 12 jours, ils sont restés très discrets, n'envoyant aucun missile sur Israël. Mais je vous rappelle qu'ils ont promis de maintenir leur menace tant que la guerre à Gaza continuera. Et la guerre dans l'enclave continue depuis 628 jours. Toujours la même catastrophe, avec pourtant ce matin un mince espoir que la trêve avec l'Iran rende possible un cessez-le-feu avec le Hamas. Selon Donald Trump, il y a, je cite, des progrès significatifs dans les discussions.
Merci Thibault Lefebvre. Alors même si la poussière est à peine retombée en Israël et plus encore évidemment en Iran, il semble pour l'heure que le coup de force imposé par Donald Trump aux deux ennemis soit payant, du moins s'agissant de la fin temporaire des hostilités. Mais jusqu'à quand? Et puis toute cette séquence s'interroge forcément sur la stratégie de l'imprévisible président américain qui au départ ne voulait pas de cette guerre mais a fini par l'embrasser avant de siffler la fin unilatéralement. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Dominique Moisy, géopolitologue, par ailleurs conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ces derniers jours, On a vu Donald Trump quitter le G7 pour aller décider de l'intervention de son pays en Iran, en égratignant d'ailleurs au passage le président Emmanuel Macron, mais aussi déclarer l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dont on a mis du temps à savoir s'il était effectif ou non. Et déclaré par ailleurs que l'article 5 qui assure la défense mutuelle des pays membres de l'OTAN était sujet à interprétation. Bref, jusqu'à quel point l'imprévisibilité du président américain modifie aujourd'hui les règles qui régissent les relations internationales?
On a dit au moment de la réélection de Donald Trump qu'un président isolationniste revenait ou arrivait au pouvoir aux États-Unis. On a bien vu que tel n'est pas le cas. L'Amérique s'est engagée de manière peut-être pas décisive, mais s'est engagée dans le conflit. Elle n'est pas non plus internationaliste au sens généreux du terme. L'Amérique n'a pas libéré le peuple iranien comme elle avait libéré l'Europe. En Normandie, en juin 1944. Non, elle est ni isolationniste, ni internationaliste, elle est unilatéraliste, elle agit, et plutôt pour elle-même, sinon même pour les intérêts personnels du président américain, démontrer qu'il est le plus grand. Le plus puissant. Et pour le moment, ça marche un peu. Il suffit de regarder les compliments faits par le secrétaire général de l'OTAN lors de l'arrivée de Donald Trump au sommet de l'OTAN à La Haye hier soir, compliments qui ont été réitérés aujourd'hui.
L'Amérique n'a pas libéré le peuple iranien, disiez-vous à l'instant. Pour autant, est-ce que les États-Unis sont redevenus le gendarme du monde?
Je ne pense pas. Ils ont retrouvé un rapport à la puissance qui est beaucoup moins prudent que ne pouvait l'être celui de Barack Obama qui, en 2013, refusait de faire appliquer les lignes rouges qu'il avait lui-même fixées à la Syrie de Bachar el-Assad. Mais est-ce que c'est le gendarme? Non, je crois que l'Amérique intervient quand le président des États-Unis a le sentiment que c'est bon pour lui. Et on voit bien que Donald Trump n'a pas joué les gendarmes à l'égard de Vladimir Poutine, alors même que celui-ci avait agressé l'Ukraine contrairement à toutes les règles du droit international. Donc c'est pas ça, c'est autre chose.
On l'a dit ce matin, le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran semble tenir. Malgré tout, le Parlement iranien a voté en faveur d'une suspension de sa coopération avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui jusqu'ici était chargée de contrôler l'avancement de son programme nucléaire. Par ailleurs, des doutes persistent, on l'a dit également, sur l'étendue des dégâts infligés à ce programme. Est-ce que les deux parties, l'Iran et Israël, ont vraiment intérêt à ce que la trêve se maintienne?
Oui. Oui, parce que ce qui est en jeu pour l'Iran, c'est tout simplement, à terme, la survie du régime. L'Iran est sorti très affaibli de cette guerre de 12 jours. Elle était déjà affaiblie pendant la guerre de Gaza par l'humiliation de ses proxys, qu'il s'agisse du Hezbollah en Iran, la chute du régime Assad en Syrie et bien entendu ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours à Gaza. Et du côté israélien, on ne peut pas dire non aux grands alliés américains et les Israéliens sont fatigués. La guerre de 12 jours succède à plus de 600 jours de guerre à Gaza. Netanyahou ne pouvait pas disant non à Donald Trump, exposer la vie de citoyens israéliens en grand nombre.
Et on terminera par ces mots. Merci Dominique Moïse, géopolitologue, par ailleurs conseiller donc spécial de l'Institut Montaigne, d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Et c'est encore dans ce contexte que doit se tenir aujourd'hui, on en a parlé, un sommet de l'OTAN à La Haye, transformé pour l'occasion en essaim de forces de sécurité.
Oui, plus de 27 000 policiers, soit près de la moitié de l'effectif du pays sont mobilisés. 10 000 militaires ont également été appelés en renfort, ainsi que des forces spéciales lourdement armées, le tout pour protéger 45 chefs d'État et de gouvernement, dont les 32 de l'Alliance militaire, à commencer par Donald Trump. Une fois de plus, tout tournera autour du président américain et de ses désidérata. En l'occurrence, tout a été fait pour ne surtout pas contrarier le milliardaire républicain. Dimanche dernier, déjà en amont donc de ce sommet, les membres de l'OTAN se sont accordés sur le principe d'un nouvel objectif inédit des dépenses militaires fixées à 5% de leur produit intérieur brut, tous ou presque, puisque le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a lui créé la surprise en annonçant que son pays rejetait une telle hausse des dépenses, comme l'exigent les États-Unis, en conséquence de quoi l'Espagne est le seul État aujourd'hui à avoir obtenu une dérogation parmi les 32 membres que compte l'OTAN. Les précisions depuis Madrid de Marie-Hélène Ballesteros.
La tension est montée au fil des jours. Après des semaines de critiques et de négociations, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, pensait pourtant avoir réussi à convaincre le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Dimanche dernier, Sanchez affirmait même sur les réseaux sociaux avoir conclu un accord historique permettant à l'Espagne d'éviter d'engager 5% de son PIB en dépenses pour la défense et la sécurité. Mais lundi dernier, Mark Rutte démentait cette exemption. Tous les États membres sont d'accord avec la déclaration et les objectifs de capacité. L'Espagne pense pouvoir atteindre les objectifs avec 2,1% du PIB, mais l'OTAN est convaincue qu'elle aura besoin de 3,5% pour y parvenir, a-t-il déclaré. L'Espagne va-t-elle donc bénéficier de cette exemption alors que Donald Trump a déjà prévenu qu'elle doit payer ce que tout le monde doit payer? La pression monte, mais Pedro Sanchez ne veut pas céder. Selon lui, la hausse drastique des dépenses militaires ne serait pas raisonnable, sinon même contre-productive. Une charge trop lourde qui obligerait l'Espagne à réduire les autres dépenses publiques, ce qui serait incompatible avec notre état de bien-être et notre vision du monde, a rappelé Sanchez. Mais ce n'est pas tout. En Espagne, Sanchez doit faire face actuellement à plusieurs scandales de corruption dans son entourage proche. Il est dans une position très délicate et a peu de marge de manœuvre pour défendre une hausse spectaculaire des dépenses militaires, alors que ses alliés politiques sont profondément pacifistes.
Un véritable carnage.
Quand la distribution d'aide à Gaza se transforme en machine à tuer, encore 20 personnes ont été abattues ce matin par l'armée israélienne depuis le début des opérations. Ce sont plus de 400 Palestiniens qui ont trouvé la mort en cherchant à obtenir de la nourriture. De son côté, Benjamin Netanyahu déplore, je cite, une journée très difficile après la mort de 7 soldats à Gaza.
C'est l'un des textes du droit international les plus ratifiés au monde.
La Convention des Nations Unies contre la torture. Et c'est peut-être aussi l'un des moins respectés. D'après les ONG, la torture existerait aujourd'hui dans les deux tiers des pays de la planète. Et pour faire le tri, donc, l'Organisation mondiale contre la torture a décidé de publier un index mondial sur les risques encourus selon le pays où l'on se trouve. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'Europe n'est pas épargnée. Les précisions depuis Genève du correspondant de RFI pour France Culture, Jérémy Lanche.
Sur les 26 pays notés pour le moment, 3 sont européens. L'Italie et l'Espagne sont par exemple classés en risque modéré, en partie à cause des conditions de détention dans les prisons et le traitement des migrants. Ça ne veut pas dire que la torture y est massive, mais qu'elle existe. Et c'est tout l'intérêt de l'index, estime le directeur de l'Organisation mondiale contre la torture, Gérald Steybrock.
Si on confronte les États, ils disent « Ah oui, il y a un cas particulier, mais c'est seulement un cas d'un officier qui n'était pas très discipliné, etc. » Ça rend visible un sujet qui est normalement invisible.
Rien de comparable, cela dit, avec la Hongrie de Viktor Orban, classée en risque considérable. La nature populiste du régime est directement en cause.
On a une époque où il y a beaucoup plus de populisme et ça s'est traduit dans une police qui est musclée, dans une détention qui est punitive, dans des sociétés où il y a un discours plutôt à la haine contre une communauté. Il y a une forte probabilité que la torture va augmenter.
Juste au-dessus, dans la catégorie où le risque est le plus élevé d'être torturé, on retrouve la Russie, la Biélorussie, la Libye, l'Éthiopie, le Bahreïn et le Salvador, où l'administration Trump a expulsé sans autre forme de procès plus de 250 migrants accusés de faire partie d'un gang criminel.
Midi passé de 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est un recours totalement inédit qui a été déposé ce matin devant le Conseil d'État français par plusieurs associations de défense de l'environnement, mais aussi des citoyens sinistrés pour la toute première fois dans l'histoire européenne. Même un gouvernement se retrouve depuis aujourd'hui attaqué par des habitants pour son inaction persistante en matière de politique d'adaptation au changement climatique. Alors en réalité, plusieurs de ces ONG avaient déjà réussi à faire condamner l'État français, c'est ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, sauf qu'elles avaient par la suite demandé au gouvernement de prendre des mesures plus ambitieuses, d'où cette nouvelle action judiciaire. Parallèlement, une lettre ouverte publiée également ce matin dans le journal Les Échos a été adressée au président et au premier ministre, appelant à un dialogue politique immédiat sur cette urgence. Enfin, dans une tribune au Monde, cette fois-ci, un collectif dénonce, lui, les réductions de moyens drastiques qui touchent notamment les institutions chargées de défendre l'environnement. Véronique Robert-Rod, bonjour.
Bonjour.
Que nous dit la multiplication donc de toutes ces initiatives sur le sentiment d'abandon, au fond, qui étreint aujourd'hui tous les défenseurs de la cause environnementale?
Abandon, cécité de la classe politique, du gouvernement, comme si les crises environnementales, l'urgence climatique, vécues, ressenties par tout le monde, sans exception, ne touchaient pas les élus du peuple. Crise pourtant ressentie donc par des citoyens, des sinistrés climatiques, dont les maisons se fissurent à cause des sécheresses, sont inondées aussi, qui subissent aussi globalement la canicule qui frappe la France ces derniers jours. Dans leur lettre ouverte adressée donc à Emmanuel Macron et au Premier ministre, ils expliquent que le changement climatique n'est pas une menace abstraite, lointaine, mais leur quotidien. Écoutez ce que vous refusez de voir, nos vies abîmées, nos droits piétinés, notre colère grandissante, écrivent ces citoyens sinistrés qui se font les porte-parole de beaucoup d'autres abandonnés en faisant passer le message que la société est prête quand même à se mobiliser, à bâtir un avenir vivable, à inventer des solutions, cesser de détourner le regard et on vous soutiendra, en quelque sorte, qu'est l'autre choix. Pour l'instant, loin d'agir, le gouvernement affaiblit méthodiquement les agences environnementales et sanitaires, constate, écrivent dans une tribune 95 personnalités, contre toutes les évidences scientifiques, des réductions de moyens alloués aux services de l'État et aux agences, d'une irresponsabilité sans précédent, écrivent-ils, une déconstruction méthodique de nos outils communs de connaissance, de régulation, qui, craignent-ils, prépare un affaiblissement généralisé de notre capacité à répondre demain aux crises écologiques et sanitaires, à protéger les travailleurs et la population. Cette politique d'attaque contre les institutions en France finalement s'apparente dangereusement à celle menée à l'administration Trump aux États-Unis. Lit-on encore dans cette tribune, les méthodes sont un peu différentes, mais le résultat sera le même.
Merci Véronique Robert-Rod. Toujours au chapitre des engagements non tenus, François Bayrou se voit lui reprocher aujourd'hui l'échec du conclave sur les retraites censé permettre d'aménager la réforme d'Elisabeth Borne pour la rendre moins impopulaire. C'est ainsi qu'hier, les députés socialistes qui, à l'automne dernier, avaient fait crédit au Premier ministre de sa volonté de remettre le métier sur l'ouvrage, ont annoncé réfléchir au dépôt possible d'une motion de censure contre le gouvernement. Avec quelle chance d'aboutir? Difficile à dire. Est-ce que le cas échéant, les autres forces de gauche joindront leur voix au PS. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Dans une assemblée toujours éclatée, c'est une fois de plus le Rassemblement National, en réalité premier groupe dans l'hémicycle par les effectifs qui devraient jouer les arbitres. Or ce matin, Antoine, le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a annoncé que son parti ne votera pas la censure et préfère donner rendez-vous au moment du budget.
Une fois de plus, le Rassemblement National est l'arbitre de cette motion de censure. Sans les voix du groupe RN, elle n'a aucune chance d'être votée. Et si l'on en croit le vice-président du parti, le choix est fait. Sébastien Chenu était ce matin l'invité de France Inter.
Une censure aujourd'hui, ça n'abrogerait pas la réforme des retraites. C'est, j'allais dire, un coup pour rien. Et nous, on se pose la question, quel est le gain pour les Français? Accessoirement aussi, le gain politique. Or, à part mettre le bazar avant l'été, il n'y a pas de gain. Alors qu'au moment du budget, à l'automne, nous allons pouvoir demander à François Bayrou de bouger des lignes, que ce soit sur l'énergie, par exemple, ou que ce soit sur la politique migratoire.
Mais au même moment, sur CNews, le député RN Jean-Philippe Tanguy était un peu moins catégorique, au micro de Sonia Mabrouk, laissant planer un doute de principe sur le choix de son parti.
Il y a très peu de chances qu'on vote une censure sur les retraites pour une raison simple, c'est que la censure ne va pas faire baisser l'âge de retraite de 64 à 62 ans.
Dans ce gouvernement que vous n'allez donc pas, et vous le confirmez ce matin, censurer en tous les cas sur la question des retraites.
C'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui décideront.
Marine Le Pen et Jordan Bardella décideront, sous-entendu ils ne l'ont pas encore fait. Lors de la chute du gouvernement Barnier en décembre dernier, le RN avait laissé planer le doute jusqu'au dernier moment, avant de voter la motion du nouveau Front Populaire.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par de fortes chaleurs, mais aussi une ligne orageuse qui partira de la façade atlantique pour se déplacer vers le centre, le bassin parisien jusqu'au Hauts-de-France. 52 départements au total ont été placés en vigilance orange pour orage ou canicule et les températures, elles seront comprises entre 20 et 38 degrés avec des pointes jusqu'à 40. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.